France Culture se fait l'écho du forum Le Monde Le Mans qui s'est tenu au Mans les 14, 15 et 16 novembre dernier sur le thème « Qui tient promesse ?»
Qu'un beau jour nous avions fait ensemble une promesse.
Aujourd'hui, cinquième émission, la promesse comme croyance sociale, avec Hervé Guillemin, historien, Arnaud Esquer, sociologue et Michaela Marzano, philosophe.
On va commencer avec vous, Hervé Guillemin, je me tourne vers vous. Vous enseignez ici, à l'Université du Maine. On a eu aussi une belle rencontre récemment. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la santé. Vous travaillez sur la médecine, sur les pratiques populaires du soin. Vous avez publié notamment un très beau livre dont on avait rendu compte dans le Monde des Livres, qui s'appelle « Histoire de la méthode Coué », qui est paru au Seuil en 2010, où vous revenez sur le parcours intellectuel, thérapeutique, mais aussi politique du pharmacien Émile Coué, hein, inventeur de la méthode qui exhortait ses adeptes à répéter matin et soir la célèbre formule que vous connaissez tous parce que vous pratiquez cette méthode. Tous les jours, à tout point de vue, tout va de mieux en mieux. Voilà. Dans ce livre, Hervé Guillemin, vous analysez la composition et les recompositions du paysage psychothérapeutique en France. Et plus généralement, dans vos textes, vous travaillez sur l'histoire de la psychiatrie et de la folie en exploitant notamment des fonds d'archives hospitalières et des dossiers de patients. Votre dernier ouvrage, vous l'avez signé avec l'ami Stéphane Tison, qui est aussi quelqu'un qui travaille à l'Université du Maine et qui est intervenu au Forum Philo il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc vous avez signé tous les deux chez Alma un livre consacré aux soldats de la Grande Guerre internés à l'asile. Hervé Guillemin, vous avez la parole pour 20 à 25 minutes. Merci beaucoup.
Je vais situer mon propos un petit peu en amont de l'histoire de la méthode Coué, qui se situait dans les années 1900-1920, et je vais vous parler de la promesse de santé, la promesse de guérison au 19e siècle. Il me semble qu'il y a deux façons peut-être de parler de cette promesse de guérison quand on est un historien de la médecine. La première manière, finalement, ça aurait été de parler de ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire de parler de cette promesse solennelle que tout médecin en début de carrière doit accomplir, le serment d'Hippocrate, une promesse solennelle devant les dieux de respecter un certain nombre de principes. C'est un texte antique qui a été retraduit au XIXe siècle et qui fait l'objet de compléments dans ce qu'on appelle, à partir du XIXe siècle, la déontologie médicale. Donc c'est en quelque sorte cette promesse individuelle, je vais la laisser de côté, on y reviendra peut-être dans la discussion si vous le souhaitez. Je vais m'intéresser plutôt à la promesse collective de guérison et à la manière dont, en quelque sorte, autour de ce que certains auteurs que vous connaissez également, comme Caen Guilhem ou Foucault, ont bien décrit comme un tournant de notre rapport à la santé, à la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, eh bien, je vais essayer de regarder, au fond, comment cette transformation de la médecine, cet avènement de la médecine moderne, celle que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, peut être considérée comme une promesse de guérison. Je vais d'abord revenir sur cet événement, au fond, et je vais essayer de prendre la définition de la promesse comme une espérance qui est consécutive là à un événement majeur, revenir pour donner les grandes tendances de ce tournant du XVIIIe siècle au XIXe siècle. D'abord, il faut savoir que cette période représente une transformation vraiment radicale de la conception de la maladie et de la santé, puisque avant ce tournant du début du XIXe siècle, eh bien, on est malade globalement, en quelque sorte. Hein. La représentation de la maladie est très liée à ce qu'on appelle la théorie des humeurs, hein, c'est-à-dire qu'on observe, pour savoir si on est en bonne santé, on observe la qualité de ses humeurs et la manière dont elles s'équilibrent dans l'ensemble du corps. Au tournant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, eh bien, la nouvelle médecine anatomique, la nouvelle médecine clinique va changer considérablement, bien sûr progressivement, cette représentation de la maladie et de la santé. Et lorsqu'on est en bonne santé, à partir de ce moment-là, ce n'est plus lorsque les humeurs sont en équilibre, c'est en quelque sorte lorsque les organes se taisent. Hein, c'est-à-dire, La maladie, c'est quelque chose, c'est une sorte de dysfonctionnement d'une partie de la machine humaine. Hein, on est donc dans une représentation tout à fait différente. Le deuxième grand changement, me semble-t-il, de cette époque, c'est que avant cette période, il est tout à fait pensable de se dire le médecin de soi-même. Hein, on peut, par exemple, pratiquer une diète, un régime, et les traités de médecine de soi-même sont très très fréquents au XVIIIe siècle, alors que, bien évidemment, ce que va ouvrir la période du XIXe siècle, c'est au fond la manière dont on s'abandonne, dont on délègue sa santé à un professionnel qui est reconnu académiquement, hein, et qui, en fin de compte, va prendre charge, va prendre soin à la fois du corps et bientôt de l'âme des individus. Alors ce tournant du XVIIIe siècle au XIXe siècle, eh bien il y a un auteur qui s'appelle Ivan Illich, qui en 1975, dans un ouvrage vraiment remarquable qui s'appelle « Némésis médical », eh bien propose de considérer ce tournant au fond comme une espèce de duperie. Pourquoi dit-il ça? Ivan Illich, c'est un penseur critique de la société industrielle du XIXe siècle et du XXe siècle. Pourquoi dit-il ça? Il dit, au fond, la promesse de guérison totale, la promesse de guérison immédiate, qui est issue du développement de la médecine moderne au XIXe siècle, eh bien, s'accompagne d'une aliénation du rapport de chacun à sa santé. Il dit aussi qu'à partir d'un certain seuil, le développement de la médecine devient contre-productive. Et il donne en 1975 des exemples très précis. Il s'appuie notamment sur les effets secondaires des médicaments, sur une technicisation de la médecine qui devient trop coûteuse pour la société, ou encore il pointe déjà les dérives potentielles de la médecine prédictive. Au fond, pour Illich, la médecine moderne ne peut tenir la promesse de guérison dans le nouveau monde industriel dans lequel elle s'inscrit, parce qu'elle naît, et je cite juste un morceau de ce texte d'Ivan Illich de 1975, « Cette médecine n'est devenue qu'un atelier de réparation et d'entretien destiné à maintenir en état de fonctionnement l'homme usé par une production inhumaine. » Et il résume sa pensée autour d'une image que je trouve assez intéressante. C'est une médecine qui promet démesurément, hein, l'hubris de la médecine moderne doit appeler en quelque sorte la colère des dieux, la némésis médicale, et cette némésis médicale, c'est ce qu'il pointe comme ses effets contre-productifs du développement de la médecine. Donc je vais repartir de ces questionnements pour interroger au fond l'histoire de la promesse de guérison au XIXe siècle. Alors que promettent les médecins à ces nouveaux patients du XIXe siècle? Alors si on regarde les dictionnaires de médecine du début du XIXe siècle, et notamment l'un d'entre eux, qui est le plus important, c'est le dictionnaire des sciences médicales de Panckoucq, qui date de 1812, eh bien, on s'aperçoit que on s'intéresse assez peu au concept de guérison. Ça, c'est très net. Par contre, on essaye de redéfinir la fonction du médecin dans cette nouvelle société du début du XIXe siècle. Et les auteurs oscillent entre deux définitions. Au fond, que doivent les médecins à leurs patients? Est-ce que c'est guérir ou est-ce que c'est pas plutôt remédier? Et ils utilisent ce terme qui vient du terme remède. Et si étymologiquement le médecin exerce bien évidemment un art de guérir, le docteur, et c'est un terme qui se développe au XIXe siècle à partir de la définition, je dirais, très professionnelle de celui qui dispose d'un doctorat, hein, le docteur c'est avant tout un savant. Et les auteurs de ce dictionnaire, eh bien, sont d'accord pour donner une définition restreinte du rôle de la médecine. Que doivent les médecins à leurs patients? Ils doivent essentiellement, non pas guérir, mais remédier, c'est-à-dire apporter à tous le meilleur remède possible compte tenu de l'avancée de la science. On peut même aller plus loin, quand on regarde ces textes du début du XIXe siècle, on s'aperçoit que promettre la guérison, c'est considéré comme dangereux pour un médecin. Hein. Il s'agit pour ces médecins du début du XIXe siècle de se distinguer clairement de la médecine populaire, de la médecine des empiriques, de la médecine de ceux qu'on appellerait aujourd'hui, c'est un anachronisme que j'assume, des paramédicaux, des sages-femmes, des apothicaires, des herboristes, qui eux, je dirais, affichent une priorité dans la guérison. Donc autant cette médecine, je dirais, très ambitieuse dans le champ scientifique, hein, et les auteurs de ces dictionnaires disent assez facilement que les médecins se hissent au niveau des dieux sur le plan de la connaissance, autant sur le plan pratique, ce sont des médecins qui sont tout à fait humbles et qui réduisent leur rôle sur le plan de la guérison. Qu'est-ce que ça donne très concrètement ? Eh bien, ça vous étonnera peut-être, mais ces médecins sont très méfiants envers l'action thérapeutique. Ces médecins de la première moitié du 19e siècle, pour faire vite, sont d'accord sur un fait. La médecine expectante, c'est-à-dire la médecine qui attend que la nature agisse, hein, qu'elle fasse son œuvre, eh bien, elle est bien supérieure à la médecine dite agissante, c'est-à-dire celle qui est beaucoup plus interventionniste. Et on trouve au début du 19e siècle une idée assez partagée. Il existe des maladies qui ne sont pas bonnes à guérir, notamment un certain nombre de fièvres. Et les fièvres représentent une part très importante des diagnostics et des symptômes travaillés par les médecins de cette époque. De fait, ça a des conséquences très concrètes sur l'image des médecins dans la première moitié du 19e siècle. Et cette image est désastreuse. Bon, il y a un auteur, enfin un dessinateur que vous connaissez bien pour la première moitié du 19e siècle, c'est Honoré Daumier, qui s'amuse assez facilement. Alors dès l'instant où il peut plus faire des caricatures politiques après 1835, il se recentre sur des caricatures sociales et il caricature beaucoup les médecins de cette époque. Et il donne des images à un médecin de l'époque qui s'appelle François Fabre, qui publie dans les années 1840 un ouvrage qui s'appelle déjà, comme celui d'Illich, Némésis médical. Il s'agit de pointer à la fois l'incurie des médecins et la démesure de la promesse initiale. Évidemment, ce décalage, ce malentendu, va bénéficier aux médecines dites alternatives. J'en donne ici un exemple qui est le plus grand succès thérapeutique des années 1840. C'est la méthode de François Raspail. François Raspail, qui est un homme politique, qui est un candidat malheureux aux élections présidentielles de décembre 1848, les premières élections présidentielles françaises. Il est battu à plate couture par Louis-Napoléon Bonaparte. Raspail, lui, porte plutôt la voix des socialistes. Il se trouve que quelques années auparavant, il a publié de nombreux textes, notamment de ce qu'il appelle des médecines des familles, où il incite la population à reprendre en main sa propre santé, et où il avance un certain nombre de pratiques thérapeutiques. Il reprend à son compte, en quelque sorte, la promesse de guérison universelle, et ça connaît, cette méthode connaît un très très grand succès dans les années 1840. L'Académie de médecine va condamner, en 1846, cette méthode Raspail, ce qui n'empêchera pas sa diffusion sur un temps relativement long tout au long du 19e siècle. En fait, Raspail, avec ses spécificités politiques, eh bien, représente cette tradition des guérisseurs qui vont opposer, au fond, à la science académique, tout autre chose, une expérience, et puis une économie du don et du contre-don parfois, plutôt qu'une une guérison, je dirais, inscrite dans une société marchande et industrielle. Autre élément qui est une conséquence de ce décalage entre l'espérance pour les patients et puis finalement cette promesse relativement timide, c'est la floraison de pratiques nouvelles dans la première moitié du 19e siècle, qui sont des pratiques relativement peu interventionnistes, mais qui sont surtout des pratiques qui donnent une place au sujet dans sa cure et qui donnent une place à la subjectivité du patient. Alors, il y en a une que vous connaissez très bien, qui est encore très, très présente dans notre société. C'est l'homéopathie, qui naît dans les années 1830. Et puis, l'autre, qui est une mode européenne tout à fait fantastique à partir de la Révolution française, c'est le magnétisme animal, qui va se diffuser dans toute la première moitié du 19e siècle. Et ce sont des pratiques, finalement, dans lesquelles l'individu souffrant possède une place dans la cure et, en quelque sorte, elles font leur succès de ce malentendu entre cette grande espérance et cette promesse. La médecine moderne, au fond, ne doit-elle promettre que la science et laisser la promesse de guérison se déployer en dehors du champ médical académique? Il y a des discussions entre médecins au milieu du 19e siècle. J'ai exhumé quelques textes d'un auteur que vous connaissez sans aucun doute, en tout cas de nom, c'est Claude Bernard, qui est formé en médecine et qui est physiologiste, mais qui a un rapport tout à fait méfiant par rapport à la médecine, on pourrait dire la médecine de soins, la médecine pratique. Mais Claude Bernard, dans les années 1860, c'est quelqu'un qui, par ses travaux de physiologie, va fonder la nouvelle médecine expérimentale, la médecine de laboratoire, qui va transformer considérablement la médecine de la deuxième moitié du 19e siècle. Que dit Claude Bernard dans ses travaux des années 1860-1870 ? Il dit au fond, la médecine expectante, celle qui attend que la nature agisse, elle est morte. Il faut que le médecin agisse désormais. Il doit agir. Pourquoi ? Bah pour des raisons scientifiques. Les travaux de Claude Bernard servent à ça, c'est-à-dire on va fonder scientifiquement de nouvelles pratiques, mais aussi pour des raisons morales. C'est-à-dire Claude Bernard a tout à fait conscience qu'il existe autre chose que la science. Il existe dans le moral de l'homme quelque chose qui s'appelle le désir de guérison. Et pour Claude Bernard, il est évident que le médecin doit aller sur le terrain, notamment le terrain des empiriques, qui, même si sont des ignorants en termes scientifiques, à force de promettre tout et n'importe quoi, bah parfois réussissent, bien évidemment. Eh bien, pour Claude Bernard, il s'agit que le médecin praticien du 19e siècle s'aligne sur ses exigences. Et alors, il a des mots. Il explique, d'une part, que le médecin est désormais situé dans une médecine concurrentielle, industrielle, et qu'il s'agit de répondre à un besoin naturel, je le cite, qu'ont les patients d'être trompés. Dans l'industrie médicale, il n'est pas possible de faire autrement. Il faut sauver l'apparence. Et il s'agit donc, pour le bon médecin, à la fois de promettre la science, mais dans la société de concurrence industrielle dans laquelle il se trouve, eh bien, il s'agit, et je le cite, « la médecine industrie consiste en une tromperie perpétuelle ». Et donc il s'agit de proposer la guérison, il s'agit de traiter systématiquement, même si ce n'est pas utile, parce qu'on est dans une industrie concurrentielle. De fait, la nature de la promesse médicale va changer considérablement dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec notamment l'essor d'une médecine qui est résolument agissante. Il se trouve que cette médecine est appuyée également par une pharmacie industrielle émergente. Pour ne citer que quelques exemples, à la fin du 19e siècle, voit arriver sur le marché des produits qui sont encore aujourd'hui extrêmement importants, comme la morphine ou comme l'aspirine. Dans le même temps, la promesse de la médecine moderne va prendre une nouvelle dimension, au fond, et je citerai un autre dictionnaire médical, le plus important de la fin du 19e siècle, le dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, donc 1874, qui annonce quoi ? Qui annonce une toute autre promesse. Pas seulement une promesse de guérison individuelle, mais une promesse de transformation sociale. J'en cite juste un court extrait, ça date de 1874. Le mal est grand, et se lie à la nature même de l'homme. Mais le remède existe, il est dans nos mains. La médecine seule peut et doit le fournir. Elle seule peut et doit donner des remèdes, applicables partout et dans tous les cas, de manière à transformer le corps social de la base au sommet. En fait, ce que promettent les médecins de cette génération, qui est la génération glorieuse de la fin du 19e siècle, une génération confiante, c'est tout autre chose que la guérison individuelle, c'est le progrès par la sanitarisation du monde. En même temps, au moment où cette promesse démesurée de transformation sociale se déploie, les conditions de sa réalisation même ne sont plus réunis. Et ici, je rejoins ce que dit Ivan Illich en 1975. C'est au moment où on voit émerger de nouvelles pathologies, celles du temps industriel, les pathologies du travail, des usines chimiques, par exemple, des pathologies nutritionnelles, des pathologies mentales nouvelles. Eh bien, c'est à ce moment-là que les médecins se délestent de tout leur héritage hippocratique ancien qui, précisément, mettait l'accent sur le lien entre les maladies de l'individu et l'environnement du sujet. Et il ne s'agit plus pour eux de penser en quelque sorte le rapport du malade à son environnement, mais il s'agit d'expertiser, il s'agit d'évaluer les effets pathogènes de la société industrielle et il s'agit de pallier la dégradation des conditions initiales de la santé. Et la figure qui monte dans la société de la fin du 19e siècle, et on est très loin de la promesse de guérison, c'est la figure de l'incurable, c'est la figure du malade chronique dont la santé est directement en lien avec la dégradation des conditions sociales de la santé. J'en donne juste un exemple et après je passerai à ma conclusion. C'est l'exemple de la psychiatrie que je connais bien et on voit bien comment, alors que les psychiatres du début du 19e siècle sont assez optimistes hein, par rapport à la guérison des fous, eh bien la fin du 19e siècle est beaucoup plus pessimiste. En fait, la plupart des pathologies mentales sont considérées en lien avec une hérédité écrasante des sujets et pas du tout en lien avec ce contexte environnemental. Je conclurai en donnant un exemple qui montre que cette question se prolonge au début du 20e siècle, autour de pratiques qui nous semblent radicalement nouvelles, mais qui en fait sont inscrites dans ce long héritage. En 1934, René Allendy, qui est un psychanalyste, un des premiers psychanalystes français des années 20 et 30, qui est aussi homéopathe, en 1934, René Allendy publie un essai sur la guérison dans lequel il prolonge à la fois la critique de la science médicale, qui passe son temps à décrire des phénomènes morbides, correctement classés, localisés, et qui sont complètement déconnectés de leur environnement social. Pour lui, la médecine a perdu son âme au XIXe siècle en ne considérant précisément la guérison que comme une concession faite à un client plutôt que comme une recherche d'équilibre et comme une recherche d'équilibre dépendant à la fois de la subjectivité du patient et de l'environnement social du patient. Pour Allendy, la guérison ne doit être ni réduite à la victoire contre un ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur. Elle ne doit pas être réduite, elle ne doit pas s'identifier simplement au combat contre les symptômes. La guérison, c'est une capacité d'adaptation à son milieu. En cela, vivre, c'est guérir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Hervé Guillemin pour cette intervention tout à fait passionnante. Quand vous dites comme ça que pour Claude Bernard, il y a la nécessité à la fois d'être pour le médecin d'être un bon scientifique et en même temps de tromper le patient. On est là sur le terrain dont on a aussi beaucoup parlé hier, le terrain de la parole. Jean-Luc Nancy a tout de suite dit que la promesse, c'était la vérité de la parole. Et je me tourne justement maintenant vers Arnaud Esquéré, qui lui-même a travaillé sur la parole agissante, la parole et ses effets, la parole, la façon dont elle circule et dont elle agit. Arnaud Esquéré, vous êtes sociologue. Vous avez travaillé vous-même sur des sujets tout à fait originaux, qui sont souvent délaissés par le monde académique, qui sont de fait assez difficiles à explorer avec les méthodes et les grilles d'analyse classiques des sciences sociales. Et vous avez voulu montrer que ces grilles d'analyse peuvent quand même s'y frotter, s'y coller. Notamment, vous avez travaillé sur les restes humains, sur la mort. On parlait de pulsions ou de phénomènes morbides à l'instant. Vous avez travaillé sur les restes humains, la mort, la crémation et les cendres, auxquels vous avez consacré un beau livre. Vous avez travaillé également sur les sectes et la manipulation mentale. Et enfin, et on y vient donc, on est plus proche du terrain de la promesse, sur la prédiction. Vous avez beaucoup réfléchi et enquêté sur la prédiction à travers une enquête sur l'astrologie, les astrologues aujourd'hui en France. Votre livre s'intitule « Prédire, l'astrologie en France au XXIe siècle ». Il est paru chez Fayard l'année dernière. Et vous y dynamitez beaucoup d'idées reçues concernant cet art divinatoire. Et vous affirmez notamment que la question est moins de s'interroger sur la fiabilité ou non de l'astrologie que de se demander pourquoi tant de gens y ont recours. Et l'une des réponses a un lien avec l'enjeu de la promesse. C'est que, dites-vous, dans une période, une époque où l'avenir est de plus en plus incertain, de plus en plus précaire, imprévisible, eh bien, l'astrologie propose à toutes et à tous des moyens de se bricoler quelque chose, de surmonter, en tout cas d'essayer de surmonter cette incertitude fondamentale. Merci Arnaud Esquiré d'être là. Vous avez également la parole donc pour 20 à 25 minutes.
Merci. Je commencerai par une question qui est à quoi sert une promesse ? Et non pas qui tient promesse, mais à quoi sert une promesse ? Et pourquoi opérer ce déplacement ? C'est que j'ai été frappé hier en écoutant les interventions par le fait que la promesse était pensée principalement par rapport à son contenu, c'est-à-dire à l'énoncé même de la promesse, et par rapport à son énonciateur, c'est-à-dire celui qui promet. Quelqu'un, lors des questions, a rappelé qu'il y avait aussi celui qui accepte la promesse. Il me semble qu'il y a là, non pas le côté obscur de la force, mais le côté obscur de la promesse. Il y a là quelque chose d'intrigant, mais aussi d'inquiétant dans ce côté obscur de la promesse, à propos duquel j'essaierai donc de dire deux ou trois choses. Donc opérer un petit renversement en modifiant la question « à quoi sert une promesse ?» et non pas « qui tient promesse ?» car cela permet de prendre en compte le dispositif social dans lequel une promesse, l'énoncé de la promesse, est inclus. Et pour répondre à cette question de manière très imparfaite, je procéderai tout d'abord en essayant de clarifier d'un point de vue théorique les conséquences de ce changement de question. Ensuite, j'essaierai de mesurer ces conséquences de manière concrète, en comparant prédire et promettre, prédiction et promesse. J'ai travaillé sur des cas de prédiction de fin du monde et des cas de prédiction astrologique. Et lorsque l'invitation m'a été faite, j'ai pensé, sans réfléchir, avec beaucoup de naïveté, que je trouverais des promesses parmi mes prédictions. Il se trouve, pour des raisons que j'expliquerai, que cela n'a pas été le cas. Et plus j'ai commencé à réfléchir à la promesse, et contrairement à la plupart des intervenants d'hier, moins je l'ai trouvée séduisante. Son côté obscur ne cessait de croître. J'ai donc cherché des cas, car je procède par l'étude de cas, pour le révéler. Quelques affaires de corruption dont je vous parlerai m'ont semblé très adaptées. Premièrement, donc, quelques problèmes de méthode. Tout d'abord, je voudrais écarter la possibilité de la promesse faite à soi-même. Il y a un argument, en effet, qui soutient que l'identité du même s'appuierait sur la promesse et qui peut se formuler ainsi. La tenue de la promesse paraît bien constituer un défi, autant un déni de changement, quand même mon désir changerait, quand même je changerais d'opinion, d'inclination, je maintiendrai. Donc cette promesse par rapport à l'identité soulève, à mon sens, en tout cas en tant que sociologue, plusieurs problèmes. Si la promesse n'est pas tenue, est-ce qu'on a affaire à une perte d'identité, à un changement d'identité ? Et d'autre part, elle peut entrer en conflit avec l'affirmation « je suis le même ». L'affirmation, en tout cas « je suis le même » peut entrer en conflit avec quelqu'un qui accuserait « tu n'es pas le même car tu n'as pas tenu promesse ». C'est un problème qui existe, par exemple, aussi à propos de l'autonomie, c'est-à-dire affirmer à la première personne et à la troisième personne. Il y a des gens qui vont dire « je suis autonome » et quelqu'un va dire « il ou elle n'est pas autonome ». Souvent, c'est un problème qui ne se pose pas, mais par exemple, dans les cas d'entrer dans des sectes, de groupes qualifiés de sectes que j'ai étudiés, c'est un problème qui est absolument central, c'est-à-dire que celui qui entre dans une secte ou d'un groupe qualifié de sectaire, qu'on dit « moi je suis autonome » et celui, les proches, en fait, disent « il n'est pas autonome ». Donc là, il y a un point de contradiction très fort entre l'énoncé à la première personne et l'énoncé à la troisième personne. Deuxième remarque par rapport à cette question de la promesse faite à soi-même, c'est la question qui estime ou reconnaît qu'une promesse a été tenue. On peut considérer qu'une personne se formulerait à soi-même une promesse et donc qu'elle validerait elle-même le fait que celle-ci soit tenue. Cela resterait de l'ordre du langage privé, en quelque sorte, mais cela n'a pas d'existence, à mon sens, sociale et est donc insaisissable sociologiquement. Autre hypothèse, on peut considérer qu'une personne, Paul par exemple, formule une promesse à un autre, Gaston, que cette promesse la concerne elle ou concerne l'autre, et que Paul s'en remette à l'autre, Gaston, pour qu'il reconnaisse le fait que la promesse a été tenue, mettant en jeu son identité en tant que telle. Dans ce cas, Paul dépose son identité dans les mains de Gaston et se place dans une situation de dépendance. Alors, deuxième enjeu théorique, c'est la question de la promesse qui est envisagée comme un acte de langage, et qu'on peut trouver par exemple chez le philosophe John Searle, acte de langage qu'on dit performatif, c'est-à-dire que le but de la promesse, nous dit Searle, est que l'obligation de faire quelque chose soit contractée par celui qui l'énonce, par celui qui s'exprime. L'enjeu est de rendre le monde conforme aux actes. Alors, tout d'abord, il est saisissant que les exemples de promissifs, puisqu'comme on dit, proposés par le philosophe Searle, soient d'une faible consistance par les enjeux sociaux qu'ils engagent ou s'entendent des rapports sociaux qui ne sont pas questionnés, puisque les exemples qu'il prend sont, par exemple, « Si vous avez besoin de mon aide, appelez-moi à mon bureau. Si vous désirez recevoir des informations complémentaires, veuillez me le faire savoir. » Ou alors « J'ai l'intention de faire mieux la prochaine fois, patron. » Je suis pour ma part critique de cette approche, non pas que le contenu même des mots n'ait pas un effet, simplement le contexte dans lequel ils sont prononcés n'est pas pris en compte. En réalité, un élément important pour moi, si je me tourne vers la question de la promesse en tant que pratique, a été la lecture d'un livre de l'historien Alain Bourreau, qui a écrit un remarquable ouvrage paru cette année, « Le désir dicté, histoire du vœu religieux dans l'Occident médiéval », car la promesse en tant que pratique sociale a fait l'objet de nombreuses discussions à propos du vœu religieux au Moyen-Âge. Et là, je voudrais signaler deux ou trois distinctions que Alain Bourreau opère, notamment entre le vœu devant témoin, écrit ou prononcé dans le cadre d'une cérémonie liturgique ou paraliturgique, et le vœu sans témoin, qu'une personne se fait mentalement à elle-même. Concernant la dispense de l'accomplissement d'un vœu, c'est-à-dire quand peut-on être dispensé et par qui, Alain Bourreau signale que trois causes peuvent être avancées, notamment en cas de cause forte. Si un deuxième vœu absorbe le premier, s'il y a une compensation équivalente à la réalisation promise dans le vœu. Entre le vœu engageant à une action pour une durée limitée et le vœu engageant à une conduite jusqu'à la mort. Entre le statut des personnes qui promettent, c'est la question, qui a le droit de faire un vœu? Les personnes qui sont privées de pouvoir sur elles-mêmes ne sont pas susceptibles d'émettre un vœu licite, tel que l'enfant, la femme ou l'esclave. À partir de ces pistes de réflexion, notamment donc celles distinguées par Alain Bourreau, je souhaiterais donc en arriver à ma position de principe, ma position de méthode de principe. Une promesse ne peut se comprendre qu'insérée dans une interaction sociale, s'appuyant sur un échange linguistique entre humains. Cela écarte la possibilité qu'une promesse puisse être formulée uniquement mentalement et sans témoin, ou qu'elle soit faite à un non-humain, un légume, des crustacés ou une divinité par exemple, ou un humain mort, sauf si elle est faite devant un tiers, ce qui donne dès lors une consistance sociale à la promesse. Enfin, le témoin est ou celui à qui la promesse est faite et qui l'accepte, voire même qui l'ont sollicité, sont nécessairement engagés autant que celui qui promet. Mais engagés à quoi? J'essaierai de résoudre ce problème après un détour par la prédiction. Pouvons-nous maintenant apprendre quelque chose d'une comparaison ou d'un rapprochement entre promesses et prédictions saisies sous l'angle de la pratique? Si on prend des cas de prédictions comme ceux que j'ai étudiés, qui sont les prédictions de fin du monde ou des cas de prédictions astrologiques, et que l'on pose la même question qu'à la promesse, à quoi sert une prédiction? Il en ressort que les prédictions peuvent servir à des choses très différentes. Promesse, prédiction ou prophétie de fin du monde, prédiction astrologique, il existe un intervalle d'attente, dans les trois cas, entre le moment de l'énonciation et le moment estimé de la réalisation, de la survenue de l'événement annoncé. En pratique, cet intervalle ne peut pas être trop court, ni trop long. Une chose étonnante, par exemple, qui est rarement relevée, est que les prédictions de fin du monde ne sont pas annoncées pour la semaine suivante, mais pour quelques mois ou quelques années. Deuxième remarque, personne ne s'étonne que des prédictions de fin du monde n'aient pas lieu, et pourtant elles continuent de fleurir. C'est donc que l'enjeu principal de la prédiction de fin du monde n'est pas la fin du monde, à mon sens, mais le moment même de l'énonciation et cette période que j'appelle la période d'attente. De la même manière, ce n'est pas parce qu'une prédiction astrologique ne s'est pas réalisée qu'une personne arrête de consulter un astrologue et celui-ci a toutes sortes de manières de résoudre le constat par le consultant d'une non-réalisation d'une prédiction. Dans le cas de la prédiction de la fin du monde, je soutiens que la prédiction sert l'intérêt de ceux qui la font circuler, que cela soit pour la défendre ou pour la dénoncer. Dans le cas de la prédiction astrologique, l'enjeu pour celui ou celle qui y ont recours, c'est-à-dire une personne qui va consulter un astrologue, est principalement de donner de l'énergie, un peu, voire beaucoup, par rapport à son existence vue de manière surplombante. Que les prédictions ne se produisent pas n'empêche pas d'y recourir. Dès lors, il apparaît moins singulier de s'interroger sur le fait que les promesses ne soient pas tenues. Pourquoi continuer à faire des promesses quand bien même on aurait fait le constat que les précédentes n'auraient pas été tenues? N'est-ce pas parce que la promesse peut remplir une fonction qui n'est pas celle immédiatement apparente? On approche du côté obscur de la promesse. Je souhaiterais maintenant, et pour finir, m'interroger sur la fonction de la promesse dans les affaires de corruption. Dans ses cours au Collège de France sur l'État, le sociologue Pierre Bourdieu analyse la corruption comme un détournement de pouvoir à chaque articulation du pouvoir dans une structure de hiérarchisation des personnes et de délégation de leur signature. La potentialité de la corruption, nous dit Bourdieu, c'est du détournement au profit de la personne des profits procurés par une autorité dont la personne est dépositaire et qu'elle a reçu d'une délégation. La corruption est structurale, conclut Bourdieu, car corrupteurs et corrompus s'entrecontrôlent. Dans ce système, la personne puissante est le personnage de l'intermédiaire qui contrôle en outre la circulation de l'information, c'est-à-dire qu'il peut détourner une partie du pouvoir en contrôlant l'information qu'il détient et exercer un pouvoir en empêchant l'accès au principal, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de lui. Mais plutôt que de partir d'une approche structurelle, je m'interrogerai sur la manière dont se produisent des cas concrets de corruption. Or, il se trouve que la promesse peut y jouer un rôle déterminant. On retrouve en effet éclatante, au milieu des articles du Code pénal condamnant la corruption, notre promesse. Et punie de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de solliciter ou d'agréer des promesses, soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, ou bien est punie aussi le fait de déposer directement ou indirectement des promesses, de proposer, pardon, directement ou indirectement des promesses à une personne dépositaire de l'autorité publique, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique une décision favorable relative par exemple à un emploi, un marché, une distinction. C'est-à-dire qu'il suffit que la promesse soit prononcée et qu'elle soit acceptée pour que l'on puisse condamner les actions. La promesse n'engage pas seulement celui qui l'énonce, mais surtout et d'abord celui à qui elle est faite, qui l'a acceptée et qui est engagé lui-même dans une action, laquelle peut prendre la forme, dans des affaires de corruption qui ont lieu aujourd'hui en France, d'obtenir un marché, des papiers, une information, voire une décision de justice, tandis que la promesse a fait miroiter souvent de l'argent, parfois un poste. Par exemple, dans un jugement daté du 11 janvier 2006, les juges de la Cour de cassation ont eu à se pencher sur le cas d'un policier qui prévenait certains étrangers de l'imminence de contrôle de police, affirmait que telle ou telle personne était en règle sans laisser ses collègues vérifier les documents présentés et qui percevait de personnes en situation irrégulière des sommes d'argent pour ce qu'ils appelaient le prix de la sécurité, à savoir une garantie de non-interpellation, ainsi que d'échanges de documents destinés à régulariser leur situation. Dans cette affaire, il ressort notamment que le policier en question aurait perçu des sommes d'argent d'étrangers en situation irrégulière, je cite les juges, en contrepartie de la promesse d'obtenir pour eux des documents administratifs, et alors qu'aucun document ne leur a été finalement délivré par ce policier. L'enjeu principal n'est donc pas la parole tenue dans la fidélité à la parole donnée, ni un maintien de soi dans le temps, il réside dans le simple fait d'énoncer une promesse. À quoi sert la promesse dans un cas de corruption ? Elle sert à obtenir quelque chose de la part de celui auquel elle est adressée. Il s'agit d'un système d'échange avec un décalage temporel, mais distinct de celui du don et du contre-don. On ne peut pas désigner la contrepartie comme une contre-promesse, puisque la contre-promesse est un écrit par lequel celui au profit de qui on a fait une promesse déclare qu'il n'en prétend tirer aucun avantage. Or, je soutiens donc qu'il existe au contraire un système d'échange lié à une promesse, avec un acte pour promesse, que j'appellerais donc un pour promesse. Ensuite, le contre-don survient après un certain temps après le don. Or, la promesse est décomposée en deux temps, le temps de l'énonciation et celui de la réalisation de l'acte visé dans l'énoncé. Le pour promesse peut soit déjà avoir eu lieu, soit avoir lieu entre l'énoncé et l'acte promis, soit même après l'acte promis si celui a été effectué. Donc la promesse n'engage pas seulement celui qui l'énonce, mais surtout et d'abord celui à qui elle est faite et qui est engagé lui-même dans une action, le pour promesse. Il me semble, et je finirai, que la question sociologique est à quoi servent socialement les énoncés ? Cela suppose d'envisager que l'énoncé comporte un certain sens et qu'il peut avoir aussi une fonction sociale autre que la seule fonction d'autorité. La fonction d'un énoncé peut sembler être limitée à son sens. Or, l'énoncé peut avoir d'autres fonctions distinctes de celles indiquées par le sens direct de l'énoncé. Ces fonctions peuvent se confondre, mais elles peuvent aussi être dissociées. L'enjeu sociologique, du moins tel est mon projet, est de déterminer s'il n'existe pas une autre fonction sociale des énoncés que celle qui leur est apparente.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Michela Marzano. Bonjour. Michela Marzano, vous êtes une femme d'idées et aussi d'engagement. Vous êtes députée au Parlement en Italie, mais vous êtes d'abord une philosophe, spécialiste de morale et de morale d'éthique appliquée. Vous essayez de penser la condition humaine et en particulier sa finitude. Hein, on y reviendra beaucoup pendant ce forum, sa vulnérabilité, ses failles, avec des objets là aussi tout à fait concrets, le corps, son statut, la pornographie, l'anorexie. Vous avez signé notamment chez Lattès en 2003 un livre intitulé « Malaise dans la sexualité », un dictionnaire du corps également chez aux Presses universitaires de France en 2007. Des objets très concrets, mais aussi des notions comme celle de confiance ou de fidélité. On faut citer de vous encore le contrat de défiance chez Grasset ou l'éloge de la confiance. On y vient de plus en plus, on se rapproche de la promesse chez Pluriel en 2012. Donc on est tout de suite sur ce terrain qui nous occupe depuis hier et jusqu'à demain soir, puisque vous avez réfléchi aux enjeux de la confiance comme pari, de l'amour comme parole donnée, qui prend place à la fois dans l'instant et peut-être dans l'éternité.
Alors, les thèmes que j'essaierai d'aborder aujourd'hui, c'est les thèmes de la promesse en amour. Et notamment, la question que je me pose est, que promet-on lorsqu'on promet d'aimer quelqu'un? En sachant que je vais aborder cette question en faisant une toute petite introduction pour revenir sur la notion des promesses en tant qu'acte qui nous engage. Ensuite, dans une première partie, je vais essayer d'expliquer pour quelles raisons on ne peut pas promettre à quelqu'un de l'aimer éternellement, pour ensuite terminer avec une deuxième partie, pour essayer de montrer que même si on ne peut pas promettre à quelqu'un de l'aimer éternellement, cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut rien promettre lorsqu'on est en train de parler d'amour. Mais du coup, qu'est-ce qu'on promet lorsqu'on est dans le cadre de l'amour ? Je vais donc démarrer en faisant référence et en citant quelques lignes d'une très grande philosophe du XXe siècle, Hannah Arendt, laquelle, en parlant de la question de la promesse, nous dit « La faculté de faire et tenir des promesses sert à disposer, dans cet océan d'incertitude qu'est l'avenir, des îlots de sécurité. » Lorsqu'on parle effectivement de l'amour, il se pose la question de savoir comment l'amour va se développer au cours des années et s'il y a quelque chose qui tient de la certitude à l'intérieur de l'incertitude qui fait intrinsèquement partie de la question de l'amour. Or, lorsque j'ai dit « j'ai promis », j'invite la personne à qui je suis en train de dire que je suis en train de lui faire une promesse à me faire confiance. Si j'ai promis quelque chose à quelqu'un, je suis effectivement en train de lui dire de me faire confiance d'une part, et d'autre part, je suis aussi en train de les mettre dans la situation de pouvoir un jour prétendre que je puisse être tenu responsable du fait que ma parole a été tenue ou pas. C'est pour cette raison que lorsqu'on est en train de promettre, une fois qu'on donne sa propre parole, la parole porte à conséquence. On s'engage envers quelqu'un à faire quelque chose. Alors, je ne vais pas revenir sur la nature de la promesse, d'autant plus que c'est une question très compliquée au sein de la philosophie. Il y a des positions qui sont très différentes. On a d'une part, juste pour les rappeler dans un cadre vraiment tout en vitesse, la position d'un philosophe comme Hume, qui considère que la nature de la promesse est toujours une nature conventionnelle et donc liée aux règles de la société à l'intérieur de laquelle je suis en train de donner de faire ou de ne pas faire une promesse. Et donc, c'est toute la question du contexte à l'intérieur duquel on promet. Mais il y a aussi d'autres positions, notamment à partir de Thomas Ryde, c'est un autre philosophe anglais, selon lesquelles, en revanche, lorsqu'on parle de la promesse, on parle toujours d'une obligation interne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'artificiel de promettre quelque chose, mais à partir du moment où j'ai fait une promesse, c'est par la nature même de la promesse que je suis tenue par la suite à tenir l'engagement que j'ai pris. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas ça du tout l'objet de mon intervention, c'était juste pour pouvoir cadrer, et donc c'était une brève introduction, pour ensuite arriver en passant par la position de Paul Ricoeur et Lucie, qui était en fait rappelée ces jours, c'est-à-dire les liens qui existent entre promesse et identité, à la question après de la promesse dans le cadre de l'amour. Nous savons tous que le philosophe Paul Ricoeur nous dit que ne pas être capable de tenir une promesse signifie être incapable de conserver sa propre identité. Or, évidemment, je suis assez d'accord avec les objections qui ont été faites tout à l'heure par Arnaud. Ça n'empêche qu'il y a effectivement un lien entre la question de l'identité et la question de la promesse, en passant par la question de l'amour. Pour pouvoir voir quel est le lien entre promesse, identité et amour, il faut commencer par se poser la question de savoir si on peut promettre, lorsqu'on promet à quelqu'un de l'aimer, si on peut lui promettre de l'aimer pour toujours. Eh bien, la toute première réponse que j'aurais tendance à vous donner, c'est que, étant donné que lorsqu'on promet, on s'engage à faire quelque chose, et donc lorsqu'on promet, on promet un certain nombre d'actes, on ne peut forcément pas, ou on ne peut, n'est pas nécessairement, pouvoir s'engager aussi à tenir des sentiments. D'ailleurs, comme nous savons depuis l'époque de Nietzsche, on ne peut ni prédire, ni promettre les sentiments, car, nous dit Nietzsche, ceux-ci sont involontaires. Dans « Humain trop humain », paragraphe 58, « Qui promet à quelqu'un de l'aimer toujours, promet quelque chose qui n'est pas en son pouvoir. » Évidemment, Nietzsche n'est ni le premier ni le dernier à avoir nié la possibilité de promettre quelque chose lorsqu'on parle des sentiments. Parce qu'il suffit de faire référence, par exemple, à quelqu'un que nous connaissons tous, c'est-à-dire Rousseau, qui a une position semblable tout en ayant des argumentations différentes, car dans La Nouvelle Héloïse, lorsqu'il parle de la promesse d'amour, il explique qu'on ne peut pas promettre d'aimer quelqu'un éternellement, ne serait-ce que parce que dans la vie humaine, tout est caractérisé par les changements. De quel droit prétendez-vous être aimé aujourd'hui parce que vous l'étiez hier ? Gardez donc les mêmes visages, le même âge, la même humeur. Soyez toujours la même et l'on vous aimera toujours. Mais changer sans cesse et vouloir toujours qu'on vous aime, c'est vouloir qu'à chaque instant, on cesse de vous aimer. Pour quelle raison j'ai cité ces passages ? Parce que là, on a quelque chose en plus. On a une référence au fait que lorsqu'on parle d'amour, étant donné qu'on est en train de parler de quelque chose qui nous concerne dans la vie de tous les jours, dans l'existentialité de notre vie, eh bien, on est plongé dans la question du changement et donc on ne peut pas promettre car, étant donné que tout change, eh bien, on ne peut pas être constamment aimé parce qu'il y a quelque chose qui change tout le temps. Et c'est là qu'on a un lien par rapport à la question de l'identité. C'est-à-dire la question du changement et de la permanence qu'on retrouve au niveau de l'identité, eh bien, c'est la même question qui se pose au niveau de l'amour. Comment puis-je dire à quelqu'un que je l'aime toujours en sachant que la personne que j'aime change tout le temps et donc ce n'est pas toujours la même personne? Et pourtant, il s'agit toujours de la même personne, même si elle change. Donc, comment faire pour concilier les changements avec la permanence dans les cadres de l'identité et dans les cadres aussi des relations d'amour qui sont directement impactées par la question, de la question identitaire? La question se complique encore plus si on prend en considération la découverte faite par la psychanalyse du sujet de l'inconscient. Là, il y a aussi la question de l'incertitude du sujet de la parole, parce qu'on peut toujours se poser la question de savoir qui dit « je » lorsque « je » dit « je t'aime ». En sachant que, lorsqu'on parle du sujet de l'inconscient, qui n'a rien à voir évidemment avec les sujets de Descartes, on est en train de parler d'un sujet qui est en train de dire tout le temps autre chose par rapport à ce qu'il dit. Un sujet qui est là lorsqu'il ne pense pas. Lorsque Jacques Lacan nous dit que je pense là où je ne suis pas et je suis là où je ne pense pas. Donc on a un renversement du cogito de Descartes pour nous dire qu'effectivement, à partir du moment où je suis en train de penser, probablement ma subjectivité, c'est-à-dire le sujet de l'inconscient n'est pas là. Mais alors, si le sujet de l'inconscient n'est pas là lorsque je pense, qui dit « je » lorsque je dis « j'aime »,« je t'aime » et qu'il n'y a pas un lien direct entre les sujets de l'inconscient et les sujets de la rationalité cartésienne. Est-ce qu'on doit pour autant renoncer à toute forme de promesse lorsqu'on aime ? En fait, ma réponse est loin de là. C'est-à-dire, l'effet de dire qu'on a du mal à essayer de justifier une promesse éternelle, d'amour éternel, ne veut pas dire que la promesse soit exclue du champ de l'amour. Au contraire. Et comment faire pour répartir et pour donner donc une pars construens à cet exposé-là? Eh bien, répartons à nouveau de Rousseau. Parce que chez Rousseau, il n'y a pas que la mise en évidence du fait qu'il y a les changements continus, mais il y a aussi quelque chose de très important qu'il nous dit toujours dans la nouvelle Héloïse, et c'est les points de départ pour pouvoir reformuler ou reconceptualiser la promesse dans le cadre de l'amour. C'est là que, à genoux devant votre dame, vous lui jurerez foi et loyauté. Non pas à dire amour éternel, engagement qu'on n'est maître ni détenir ni dérompre, mais vérité, sincérité, franchise. Qu'est-ce qu'il nous dit Rousseau? Il nous dit que même si on ne peut pas promettre à quelqu'un d'aimer, de l'aimer pour toujours, on a la possibilité, voire même le devoir, de promettre quelque chose, c'est-à-dire de promettre vérité, sincérité et franchise. La chose qu'il est en train de nous expliquer Rousseau, c'est que lorsqu'on parle d'amour, on peut, voire même on doit promettre une forme d'authenticité. Mais encore faudrait-il essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par être authentique. Alors, pris dans une forme minimale, être authentique signifie essayer, dans la mesure des possibles, de dire ce qui est et ne pas dire ce qui n'est pas, ou surtout ne pas dire ce qui n'est plus. Parce que quelque part, la véritable trahison dans les cadres de l'amour consisterait à faire croire à quelqu'un que rien n'a changé, quand en revanche, tout est différent. Là où l'authenticité consisterait justement à nommer le changement. Donc, on peut promettre de nommer ces changements parce que ce n'est qu'à partir du moment où on nomme les changements qu'on peut aussi permettre à l'autre personne de se positionner par rapport à moi, par rapport au changement qui m'a directement touché. Mais encore, ce n'est pas la seule caractéristique ou la seule promesse qui est engagée dans le cadre d'une relation d'amour. Parce que promettre l'authenticité ne signifie pas que assurer la personne du fait qu'elle sera tenue au courant des changements éventuels, mais signifie aussi promettre quelque chose qui concerne l'instant précis, le présent, c'est-à-dire promettre de respecter son altérité. Et ça, je pense être le cœur même d'une relation d'amour. C'est-à-dire, quand j'ai dit « promets à l'autre de respecter son altérité », signifie permettre à l'autre personne d'être aimée telle qu'elle est, en étant autre par rapport à ce que probablement j'aurais voulu qu'elle soit. L'amour consisterait à ce moment-là dans la possibilité que chacun aurait d'être soi-même, être toujours différent par rapport à ce que les regards de l'autre voudraient coller sur nous. Être autre par rapport à ce que l'autre pourrait attendre de nous, mais aussi être autre par rapport à ce que nous-mêmes pourrions espérer de nous vis-à-vis de l'autre en essayant de lui donner de nous une image idéale. Et donc, promesse dans l'amour comme une promesse d'authenticité, comme une promesse de respect de l'altérité, qui en fait veut dire une promesse de reconnaissance. La reconnaissance étant tout d'abord une forme d'amour, l'amour étant tout d'abord une forme de reconnaissance, la reconnaissance étant la possibilité d'être accepté, même si on ne correspond pas exactement aux attentes qu'on pourrait avoir sur nous. Et donc, cette promesse de pouvoir être autre par rapport à ce que l'autre pourrait attendre de nous. Ce qui d'ailleurs nous permet de faire lien avec la fameuse phrase dans laquelle Jacques Lacan nous définit l'amour, quand il nous dit que aimer signifie donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on aime? Lorsqu'on aime, on essaie de donner à la personne que l'on aime quelque chose qu'on voudrait soi-même recevoir, parce que c'est ce qui nous manque. Mais si nous essayons de donner à l'autre ce qui nous manque, c'est-à-dire ce dont nous avons besoin, cela veut dire que nous essayons de lui donner quelque chose que nous n'avons pas. Tout en sachant qu'étant donné que l'autre est autre par rapport à nous, fort probablement les choses que l'autre voudrait recevoir ne correspondent pas à ce que nous voudrons recevoir nous et que nous essayons de lui donner tout en ne l'ayant pas. Et là on voit qu'il y a quelque chose du coup qui coince tout le temps au niveau des relations d'amour, mais dans l'acceptation de l'altérité qui constitue par ailleurs les contenus les plus importants de la promesse d'amour, qu'est-ce qu'on donne du coup à l'autre ? On lui permet d'accéder à cette liberté d'être soi qui fait qu'il ne doit pas forcément se conformer aux attentes que nous pouvons avoir de lui, exactement comme nous pouvons avoir la liberté de ne pas nous conformer aux attentes que lui ou elle pourrait avoir sur nous. Et donc, j'ai conclu, si le point de départ était d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut promettre à quelqu'un lorsqu'on lui promet l'amour. Et si on a vu qu'on peut pas faire une promesse d'amour éternelle parce que les sentiments c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas et donc sur lesquels on peut pas être tenu responsable comme lorsqu'on est en train de parler des actes, et si on ne peut pas promettre non plus un amour éternel car il y a cette question du changement continu, cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse rien promettre en amour, la promesse en amour étant effectivement une promesse de reconnaissance et une promesse d'authenticité. J'essaierai authentique avec toi dans la mesure du possible, c'est-à-dire je m'efforcerai de nommer à chaque fois les changements si changement a lieu, et je te promets aussi de te reconnaître tel que tu es, ne serait-ce que parce qu'à partir du moment où je n'étais plus capable de te reconnaître tel que tu es, tu ne serais plus accepté et tu perdrais cette liberté d'être toi-même à l'intérieur d'une relation. Et du coup, je termine, comme je vous avais dit, en citant un bref passage de mon dernier livre sur l'amour. Jadis, je voulais un amour parfait, sans faille, à l'abri des doutes. Et j'ai déraillé, car il n'est pas d'amour sans incompréhension, et les relations les plus profondes sont celles qui traversent les ambiguïtés du désir. Quand on aime, on accepte la part obscure de l'autre. On se donne entièrement à l'autre seulement lorsqu'on comprend que l'on ne pourra jamais se donner entièrement, comme le dit Georg Simmel, parce qu'il existe en chacun de nous des zones d'ombre que nous-mêmes ignorons. L'amour n'est qu'une promesse tacite de respect mutuel. S'aimer sans vraiment comprendre pourquoi. S'aimer juste parce qu'on devine que l'autre est là, même quand il est loin.
C'était le forum Le Monde Le Mans, avec aujourd'hui Hervé Guillemin, historien, Arnaud Esquer, sociologue et Michaela Marzano, philosophe. Un débat animé par Jean Birnbaum. Prise de son Georges Thau, réalisation Isabelle Iuel. Nous nous retrouverons lundi prochain pour continuer à explorer cette question de la promesse comme croyance sociale avec André Orléans, économiste.